Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos de la Microsoft Virtual Academy intitulée Windows 10, quoi de neuf pour les développeurs. Je m'appelle Alex Danville, je suis Technical Evangelist chez Microsoft, avec comme sujet de prédilection l'Internet of Things et puis le cross-platform. Mon rôle chez Microsoft est d'accompagner tous ceux qui veulent créer des solutions sur nos plateformes, faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible, leur expliquer quelles sont les possibilités, où est-ce que Microsoft va sur tel ou tel domaine, et faire en sorte qu'ils aient la possibilité de créer les meilleures solutions possibles, les plus pertinentes et le plus vite possible. Alors vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog danvi.tv et puis interagir avec moi sur Twitter. J'aurai grand plaisir à tenir compte de vos feedbacks et à préciser un certain nombre de choses que je n'aurais pas dites éventuellement dans ces vidéos. Pour suivre cette vidéo et pouvoir refaire l'exercice chez vous tranquillement, il vous faudra un PC avec Windows 10 Technical Preview en build minimum 10041. J'utiliserai personnellement la version 10061. Il vous faudra aussi le Visual Studio 2015 Technical Preview en version 6, donc c'est la sixième CTP comme on dit. Et puis enfin, il faut rajouter par-dessus cela les Windows 10 Technical Preview Tools qui vous permettront d'avoir accès au SDK complet de Windows 10. Enfin, sachez que comme nous irons assez vite sur certaines parties, il faudra savoir un peu manipuler Visual Studio et puis avoir des connaissances en C Sharp XAML. Vous retrouverez d'ailleurs des cours dédiés à ces deux sujets sur la Microsoft Virtual Academy, donc n'hésitez pas à faire en préalable à cette série de vidéos dédiées à Windows 10 des cours sur la partie Visual Studio C Sharp XAML. Cette série Windows 10 Quoi de neuf pour les développeurs est décomposée en 6 modules. Après avoir vu la plateforme et ses outils, l'anatomie d'une application, donc savoir comment on peut l'architecturer, vu les premiers nouveaux contrôles qui sont mis à notre disposition, nous allons continuer sur cette série de contrôles pour voir ceux qui nous permettent de faire du design adaptatif. Autrement dit, comment faire pour pouvoir adapter notre application aux différentes tailles d'écran. Alors, rappel très rapide sur la plateforme. Windows 10 se doit de fonctionner sur un très grand nombre d'appareils. Ces appareils disposent d'écrans complètement différents. Ça va de 4 pouces sur un smartphone jusqu'à 82 pouces et plus sur une Surface Hub, donc un écran géant. Ça peut passer par l'écran de votre salon ou pourquoi pas les tablettes et autres. Et donc, on va essayer de faire en sorte de partager un même code, que ce soit le code au sens C Sharp du terme, mais aussi le code au sens XAML du terme, faire en sorte que ce rendu visuel puisse s'adapter et procurer ainsi à nos utilisateurs la meilleure expérience possible. Alors pour la partie design, on peut voir que une même application, ici l'exemple de l'application de mail, va devoir s'adapter en fonction de la taille de l'affichage, puisque maintenant nous ne sommes plus, comme sous Windows 8, limités à un mode de fonctionnement en plein écran ou partiellement avec un splitter. Là, on va vraiment pouvoir redimensionner l'application comme on le souhaite. Regardez ici, par exemple, on a enlevé la liste des dossiers pour faire apparaître uniquement la liste des mails et sa preview. Et puis, si je continue à redimensionner mon application, au final, je vais en arriver à quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'on pourrait voir sur un smartphone. Et oui, ça s'adapte parfaitement. Et ceci parce que l'application a été conçue dans cet esprit-là. Donc on a pu exploiter un certain nombre de contrôles qui nous ont permis de développer rapidement une application au design complètement adaptatif. Alors parmi ces contrôles, il y a celui que l'on appelle le split view. La split view, vous l'avez vu dans de très nombreuses applications, c'est un concept qui ne fait pas forcément 100% d'unanimité, mais qui a quand même le mérite d'être présent sur l'ensemble des plateformes et qui est, si on peut dire, une sorte de standard de fait. Donc voilà l'exploitation de la split view dans différents types d'applications. Vous remarquerez notamment un des symboles de ce fameux contrôle split view, qui est le fameux hamburger, donc cette fameuse icône avec trois traits qui schématise un peu hamburger, mais qui est en fait une sorte de menu, et donc qui affiche le menu lorsque l'on appuie dessus. Alors, le comportement, il est assez classique. Vous avez un menu, vous avez la possibilité de l'afficher de différentes façons. Ici, par exemple, une façon étendue sur la gauche. Au centre, vous avez une façon qui est réduite. Et puis, une fois intégré dans l'application, voilà ce que ça donne. Lorsque je touche le menu hamburger, à ce moment-là, je déplie le menu. Les actions du menu sont, elles, accessibles, que le menu soit déplié ou non. Alors le fameux hamburger menu, vous retrouverez son symbole dans une nouvelle police qui a été intégrée à Windows 10, qui s'appelle la Segoe MDL2 Assets. Vous retrouverez plein de symboles super intéressants à utiliser dans vos applications, donc n'hésitez pas à en abuser. Alors, la split view, voilà comment elle se décompose. Vous avez un contrôle split view, vous avez une notion de pane. Le pane, c'est ce qui va justement s'afficher, ce qui va permettre d'afficher le menu à proprement parler. Donc, le pane est un conteneur, donc je peux mettre un petit peu ce que je veux dedans. Ici, exemple, nous avons pris un stack panel. Et dans ce stack panel, nous avons intégré des radio buttons. Le mérite des radio buttons est que seul un de ces bouton peut être activé à la fois, ce qui correspond exactement à l'esprit qu'on veut pour un menu d'une application. Et il y a aussi une notion de content. Donc ce content, c'est la partie du split view qui va accueillir les pages que l'on souhaite afficher. Donc là ici, par exemple, on y a mis la frame. Il y a aussi un certain nombre de propriétés que nous allons pouvoir détailler, comme par exemple, est-ce que le panneau est ouvert ou fermé? Quelle est sa taille lorsqu'il est en mode compact? Quelle est sa taille lorsqu'il est ouvert? Est-ce qu'il va être placé à droite ou à gauche? Et puis un mode de représentation que l'on va détailler juste ensuite. Donc, ces fameux modes de représentation, les voici. Donc, on a deux colonnes ici. Une colonne qui nous fera une représentation quand le panneau est ouvert et une représentation quand il est fermé. Alors, en mode inline, vous verrez que l'emplacement du menu est pris sur l'affichage. Et lorsque l'on referme le panneau, à ce moment-là, j'ai 100% de l'affichage qui est disponible pour ma page d'application. Alors, à noter que là, le menu hamburger devrait s'afficher par-dessus ma page et donc intégré dans celle-ci. Ensuite, en mode overlay, à ce moment-là, le menu va s'afficher par-dessus mon contenu. Donc on imagine qu'il sera utile de refermer ce menu si on veut pouvoir utiliser pleinement l'application. Une fois qu'il est fermé, j'ai accès à 100% de ma page. En mode compact, cette fois-ci, lorsque le menu est affiché, j'ai une vue réduite de mon application. Lorsqu'il est caché, le menu est toujours visible et 100% accessible pour mon utilisateur. Et la vue est légèrement réduite de la taille en fait, de mon menu en mode compact. Et puis Compact Overlay, vous l'aurez compris, c'est un peu un intermédiaire entre les deux. J'ai 100% de la page affichée, le menu s'affiche par-dessus ma page, et donc j'ai une vue partielle de ma page. Et lorsque le menu est refermé, cette fois-ci, je vois ma page moins la taille du menu compact. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'on vous offre une grande liberté quant à l'affichage. Donc vous êtes relativement guidé, mais avec quand même un grand espace de liberté. Ici, on ne parle que du mode d'affichage, mais bien sûr, en termes de design, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous devez intégrer ce split view dans votre application comme vous le souhaitez. Et ce contrôle n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez très bien vous passer de ce contrôle, utiliser une autre mécanique, si elle a plus de sens pour votre application. Alors, voyons ensemble, dans le code à proprement parler, à quoi ressemble cette split view. Nous voici dans Visual Studio 2015, dans notre projet Winten Demo. Dans ce projet, il y a l'exploitation de la split view. Alors cette fois-ci, vous noterez que la split view va être utilisée dans la page principale, que voici, avec le contrôle split view. Donc si on regarde à quoi cela ressemble lors de l'exécution, voici le contrôle split view ici, le fameux hamburger menu. Notez que nous avons choisi un type d'affichage en mode compact ici. Et puis, il sera en mode overlay, puisque regardez, la taille de ma page ici ne s'est pas modifiée. Donc, je perds une partie de l'utilisabilité de ma page. Toutefois, dès que je vais sélectionner le contrôle, celui-ci va se refermer. Alors, vous pourrez éventuellement être limité par l'emplacement. Donc j'ai décidé moi d'ajouter un scroll ici pour mettre un certain nombre d'items. À vous de voir comment vous allez l'intégrer. Pareil, ici, j'ai décidé de mettre le contrôle back sur une idée de Sébastien Pertus que je me suis permis de réexploiter dans cette application, qui va me permettre de naviguer de page en page lorsque je vais passer ici une page suivante. Donc, exemple, je suis dans la page ici du contrôle pivot que nous avons vu précédemment. Je vais passer au calendrier et quand je vais faire back ici, je reviens en arrière jusqu'à ma page d'entrée. Donc voilà en gros l'exploitation du split view. Notez que j'ai qu'un seul élément qui est sélectionné à la fois, ici par exemple, et ce grâce à un contrôle radio que j'ai pu utiliser. Alors nous allons voir comment j'ai pu faire cela. Alors dans le code, il y a plusieurs choses. Déjà, commençons par le plus simple, le split view lui-même. Donc j'ai ici instancié un split view dans mon XAML. Il est sous la grille générale de la page. Je lui ai donné un nom, je lui ai donné un fond, couleur ici. Je lui donne la taille du panneau lorsqu'il est ouvert, la taille du panneau lorsqu'il est fermé. Notez qu'ici vous êtes totalement libre. Vous pouvez vous appuyer sur les principes de design que vous souhaitez. Et puis ici je suis en mode compact overlay, ce qui fait que quand il est compacté, je ne perds qu'une toute petite place de ma page, et puis lorsqu'il est ouvert, à ce moment-là, il s'affiche par-dessus la page. Par défaut, je lui ai demandé d'être fermé, vous auriez pu décider de l'inverse, et puis je lui affiche une couleur de fond. Pareil, rien ne m'empêche d'utiliser un style pour être plus propre. Je vais revenir sur cette particularité-là, qui est assez symptomatique. Donc ici, c'est le contenu, j'ai décidé de binder le contenu. Alors voyons ensemble. Quelle mécanique j'ai utilisée pour afficher le contenu. En fait, il faut aller dans la page app.xaml et vous allez voir que l'astuce, si je puis dire, consiste à redéfinir en fait quelle sera la page qui va hoster la frame. Donc ici, la main page, c'est la page que l'on vient de voir qui contient la split view. Et je vais dire, ben voilà, si jamais il y a une frame ici disponible, à ce moment-là, je vais faire en sorte que le data context de ma main page soit la root frame à proprement parler. Donc, c'est-à-dire que, et pour faire simple, cette fameuse frame qui va héberger les pages dans lesquelles on va naviguer dans cette application sera intégrée ici à l'intérieur du contenu de mon application. Donc, c'est-à-dire que j'ai une page qui va héberger une frame qui elle-même hébergera les autres pages de l'application. Ensuite, pour passer d'une page à l'autre, bien ce sera extrêmement simple. Je vais ici dans mon application et dans le source de la page main page et lorsque je vais dire que je souhaite naviguer d'une page à l'autre, je vais vérifier que mon data context est bien la frame et je demanderai ensuite à la frame de m'indiquer quel est le type de page déjà affichée. Si le type de page est différent de celui que je demande, à ce moment-là, je demanderai à la frame de naviguer vers la nouvelle page. Et ensuite, je referme mon split view pour m'assurer que la nouvelle page soit affichée pleinement en considérant que, suite à la navigation, l'utilisateur a fait son choix dans le menu. Voilà pour cette petite astuce. Je vous invite à l'utiliser. N'ayez crainte. Le source est complètement disponible sur GitHub. Vous retrouverez les références à la fin de la vidéo. Alors retournons maintenant à ma split view. La split view, comme on l'a vu, elle a une notion de pane. Donc là, c'est l'endroit qui va héberger le menu à proprement parler. Ce menu, il est un petit peu long. Je me suis donc permis de le mettre dans un scroll viewer, ce qui permet de naviguer soit au toucher, soit avec la molette de la souris pour trouver les options dont j'ai besoin. Et puis ensuite, j'ai un simple stack panel qui va mettre les contrôles les uns en dessous des autres. Et chaque option du menu est représentée ici par un radio button. Ces radio buttons ont un nom, je leur donne éventuellement un style. Et c'est ce style en fait qui va complètement changer la donne entre un radio button standard qui lui va s'afficher avec un petit rond et puis la possibilité de le sélectionner, vers ce que nous avons actuellement, à savoir un bouton avec une icône et un texte à côté. Donc, ce style-là, vous retrouverez bien sûr sa définition. Ici, je l'ai stocké à l'intérieur de l'app.xaml, qui est un endroit privilégié pour stocker les ressources de votre application. Donc, cet app.xaml, je l'ai mis un application.resources. À l'intérieur, j'ai mis un dictionnaire de ressources. Et dans ce dictionnaire de ressources, j'ai un style. Ce style, c'est le menu radio button style. Qui va s'appliquer sur les radio buttons et je redéfinis les propriétés complètement de ce bouton en question. Ce qui lui donne le look qui est attendu dans une split view. Alors voilà l'ensemble des entrées de menu, donc vraiment rien de bien compliqué ici. Notez l'utilisation du tag qui est une propriété qui sert un petit peu de fourre-tout et dans lequel j'ai décidé de noter quel serait le caractère utilisé pour symboliser l'icône de mon entrée de menu. À chaque fois, ces icônes, je suis allé les piocher dans la nouvelle police de Windows 10. Voilà, alors bien sûr, je peux changer les styles comme je veux. On pourra ici, dans le Display Mode, afficher l'ensemble des modes disponibles. Je peux customiser entièrement le style, etc. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'il y avait derrière en termes de code. Donc rien de bien compliqué ici. Pour reprendre une fonctionnalité que j'ai évoquée plus tôt, ici je vais détecter la présence ou non de boutons hardware disponibles sur le device sur lequel je m'exécute. Donc si vous regardez les références de mon projet, j'ai demandé à ce que mon projet puisse s'exécuter en tant qu'Universal App bien sûr, sur desktop et sur mobile. Et donc, en tant qu'Universal App, on n'a pas accès à des boutons hardware qui sont accessibles uniquement avec la partie Windows Mobile. Cette partie Windows Mobile me donne accès aux API qui sont indiquées ici, les boutons hardware. Seulement, si j'appelle cette API-là sur une plateforme qu'il ne supporte pas, à ce moment-là, je vais être bloqué, je vais obtenir une erreur. Donc, pour ce faire, je vais tester si vraiment le backbutton existe. Pour ce faire, extrêmement simple. J'ai une API à ma disposition, API Information, et j'ai une méthode qui s'appelle le isTagPresent. À partir du moment où je lui indique ici un namespace, cette méthode va me retourner vrai ou faux si ce namespace est déclaré ou pas au sein de mon application. Si c'est vrai, c'est que je suis vraisemblablement sur Windows Mobile. Donc à ce moment-là, je sais que j'ai accès à ces méthodes-là. Et je le fais de façon conditionnelle. Si je suis bien sur Windows Mobile, alors j'accède à ce code-là. Et je n'aurai donc aucun problème. De fait, le backbutton, je le rends visible uniquement si j'ai bien présent un bouton back disponible. Ensuite, on va continuer un petit peu. Le fameux go back, et bien là, c'est uniquement des facilités d'usage pour me faciliter la navigation à l'intérieur des frames. Donc, comme cette frame est hébergée à l'intérieur du data context de ma page, je récupère donc la frame ici. Et je vérifie si je peux faire un back avant de le faire. Là, notez qu'il y a une notation un petit peu particulière auquel nous ne sommes pas toujours habitués, forcément, puisque c'est une des nouveautés de C Sharp 6. Ici, j'aurais dû logiquement faire un code qui va ressembler à quelque chose comme ça. Normalement, je fais si la frame est différente de nulle. Voilà. Et que la frame.canGoBack, et où donc vous aurez compris la suite, à ce moment-là, je peux faire le goBack. Et vous voyez que ça a été simplifié avec l'opérateur de test de nullité ici. Donc, je vais faire frame.d'interrogation. Ça sous-entend que si la frame n'est pas nulle, je peux aller plus loin. Sinon, je m'arrête là et je retourne false. Donc, ce qui me simplifie énormément le code. Je pourrais très bien enchaîner comme ça les tests en question. À partir du moment où je vais récupérer un contenu, quel qu'il soit, hop, je vais continuer ma série en disant voilà, si rien de tout ça est nul, j'irai jusqu'au bout de mon évaluation. Si l'un de ces parties d'expression est nul, à ce moment-là, je m'arrête tout de suite. Ce qui peut éviter de très nombreux tests. Donc là, vraiment une élégance toute particulière pour C Sharp 6 que je peux utiliser dans les Universal Apps. Je continue. Ici, c'est le bouton du hamburger qui réagit. J'inverse tout simplement l'état du panneau. S'il était ouvert, je le ferme. S'il est fermé, je l'ouvre. La navigation que j'expliquais tout à l'heure. Et puis, à chaque fois que j'appuie sur un des boutons, eh bien, je navigue vers la page en question. Donc vraiment, c'est extrêmement simple à utiliser. Donc voilà pour le contrôle Speed View. N'hésitez pas à expérimenter un petit peu ces différents modes d'affichage parce que je suis sûr que vous allez trouver un mode de fonctionnement qui vous convient convenablement. Et puis si vous n'êtes pas convaincu de ce contrôle, si ça n'a pas de sens pour votre application, ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucune obligation de l'utiliser pour avoir une application moderne et surtout qui ait du succès sur la plateforme Windows. Passons maintenant au Relative Panel. Alors, pour avoir la possibilité de créer une même application, un même code source, et qu'il soit capable d'adresser des besoins aussi différents que celui que nous avons à l'écran, ici vous voyez sur la gauche une application qui tourne sur un smartphone, de l'autre côté une application qui tourne sur un notebook. Dans les deux cas, il s'agit vraiment du même exécutable, de la même application, et pourtant, nous avons fait en sorte de maximiser l'expérience utilisateur sur une plateforme et sur l'autre, sans compromis. Donc un affichage passablement différent. Vous noterez l'utilisation du Split View. Dans un cas, il est en mode overlay, c'est-à-dire que quand je vais appuyer sur le bouton, il va s'afficher complètement sur la page. De l'autre côté, il est en mode compact, où là, j'ai les fonctionnalités disponibles. Ce qui ne me pose pas de problème, puisque j'ai vraiment de la place et je peux complètement l'utiliser et donner le bénéfice de cette place à mes utilisateurs. Donc, pour nous faciliter la vie et la création de ce type d'application qui soit adaptative, nous allons pouvoir utiliser un contrôle Split View. Voilà à quoi ressemble la vie d'un designer qui là se trouverait dans Adobe Illustrator et qui va représenter la vue d'une page sur les différents form factors d'écran. Donc là, on voit typiquement sur un téléphone 5 pouces, le designer décide de l'afficher d'une façon particulière. Et puis il pourrait décider de l'afficher différemment sur du 4 pouces, du 6 pouces, du 8 pouces, en tablette, en laptop, etc. Donc toutes les déclinaisons possibles. C'est jamais très très simple à exprimer, c'est énormément de travail. Et si on avait une façon qui nous permettait d'avoir des écrans qui s'adaptent automatiquement à ce design-là, simplement en exprimant les quelques modifications de comportement, ça nous simplifierait énormément la vie. Alors pour ce faire, nous avons à notre disposition un certain nombre de contrôles layout. Donc, ces contrôles layout ont pour but de positionner les contrôles les uns par rapport aux autres, ceci afin d'agencer les écrans le mieux possible. Il y en a d'extrêmement connus, comme par exemple la grille qui nous permet de dessiner finalement une grille avec des cellules et de positionner les contrôles dans chacune de ces cellules. Ce qui offre déjà un excellent niveau de granularité et une possibilité de s'adapter, puisqu'on peut demander à la grille, par exemple, en indiquant une taille de colonne en étoile, par exemple, ce qui nous permet d'avoir une colonne dont la taille se redimensionne en fonction de la taille d'écran. Vous aurez le Stack Panel, qui est vraiment un de ceux qui est le plus utilisé, qui permet de mettre les contrôles soit les uns à côté des autres, soit les uns en dessous des autres. Vous avez le contrôle Canvas, qui permet un positionnement totalement libre. Et on continue comme ça la liste des contrôles, le scroll viewer qui permet de scroller les contrôles si on manque de place à l'écran, et ainsi de suite. Petite remarque sur la viewbox qui est souvent sous-utilisée, qui permet tout simplement de redimensionner l'ensemble des contrôles présents à l'intérieur de cette viewbox en fonction de la taille d'écran. Donc c'est vraiment un contrôle très pratique, j'utilise par exemple pour certains cas simples ou des jeux où je souhaite tout appliquer simplement une transformation de taille de tout ce qui est contenu dans la Viewbox. Et puis, s'ajoute à cette palette, en complément de tout cela, le Relative Panel. Donc le Relative Panel, qu'est-ce que c'est? C'est un contrôle d'agencement et qui ordonne l'ensemble des contrôles qu'il contient en définissant des relations entre eux, d'où son nom, Relative Panel. Alors voilà à quoi ressemble le code. On déclare le Relative Panel et puis on met directement en dessous les contrôles que nous souhaitons afficher. Et s'ajouteront à cela des extensions de propriété ici qui nous permettent de qualifier la nature de la relation entre ces contrôles. Exemple ici, j'ai donc un premier rectangle qui est défini en rouge, et ce rectangle, je vais demander à ce qu'il soit aligné horizontalement sur le centre du panel lui-même. Même chose pour la partie verticale. En gros, ce rectangle rouge va se retrouver centré par rapport au relatif panel. Le rectangle bleu, lui, n'a aucune indication. Il va donc se positionner en haut à gauche, comme il le ferait dans une grille. Mais je peux changer ce comportement et faire en sorte, par exemple, que le rectangle rouge, cette fois-ci, s'aligne à droite. Du rectangle bleu avec le relative panel point right of blue rect. Donc je lui demande de s'aligner sur la droite du contrôle rectangle bleu. Et puis je souhaiterais que au niveau vertical, il soit aligné sur le centre du rectangle bleu. Alors là, les deux rectangles font la même hauteur. Imaginez que le rectangle rouge fasse la moitié en hauteur du rectangle bleu. Me sera trouvé avec un rectangle rouge parfaitement centré en hauteur par rapport au rectangle bleu. Alors, on peut avoir tout un tas de déclinaisons comme celui-ci. Là, je vais avoir par exemple un alignement en bas du rectangle rouge par rapport au rectangle bleu. Et puis, je vais demander à ce que les deux contrôles soient alignés sur la droite. Donc, je demande au rectangle rouge de s'aligner sur la droite du rectangle bleu. Toutes les déclinaisons sont possibles. Ici, je garde mon rectangle rouge aligné sur le bas du rectangle bleu, et puis je vais aligner leur centre, ce qui me permet d'avoir un affichage parfait comme celui-ci. L'objectif, ou un des objectifs du relatif panel, c'est bien sûr de nous offrir plus de possibilités, des positionnements qui étaient très compliqués à faire avant, voire impossibles. Et puis, surtout, d'être capable de nous simplifier l'arbre visuel. Regardez l'exemple ici, qui est un exemple déjà lui-même simple, mais qui nous permettra de comprendre vite fait les choses. Pour avoir un même résultat, je suis obligé, sans le relatif panel, d'avoir une grille qui contiendrait un stack panel, qui contiendrait deux stack panel, qui m'afficherait mes blocs. De l'autre côté, je peux simplifier tout ça avec simplement un relative panel qui aurait toujours les quatre blocs puisque c'est ce qui sera visible de l'utilisateur et chacun de ces blocs se verra attribuer un certain nombre de relations des uns par rapport aux autres. Voyons ce que ça donne par code à l'intérieur du Visual Studio. Nous voici dans le Visual Studio, toujours dans notre projet Win10 Demo, et dans ce projet, je vais regarder la partie relative panel. Donc voici le relative panel, voici le code. En question, donc j'ai décidé de stocker des relatifs panels à l'intérieur d'un contrôle pivot pour avoir plusieurs scénarios et à chaque fois j'aurai le relatif panel et puis un certain nombre de contrôles à l'intérieur. En l'occurrence ici j'ai choisi des rectangles et j'enchaînerai les différents scénarios. Alors regardons déjà ce que ça donne à l'exécution. Donc voici ma démonstration. Je vais prendre le scénario du relatif panel. Les voici. Ici, je me retrouve avec trois rectangles alignés les uns aux autres. Là, ce que j'ai souhaité utiliser, c'est les séquences de off, que j'appelle xoff, dans le sens où vous pourrez avoir un certain nombre de verbes type left off, right off, donc aligné à gauche, en haut, en bas, et ainsi de suite. Donc, j'ai demandé ici, à ce que les différents contrôles soient alignés par rapport au rectangle blanc. Donc le bleu va s'aligner par rapport au blanc et le rouge par rapport au blanc. Et ceci va me permettre d'avoir un rectangle blanc parfaitement centré et que les autres rectangles s'ajustent par rapport à cela. Donc si j'agrandis ma fenêtre, mon rectangle blanc est toujours centré et mes rectangles bleu et rouge, eux, sont toujours parfaitement positionnés. Ici, je vais jouer avec l'alignement. Donc je vais avoir toujours mes rectangles positionnés les uns par rapport aux autres et je demandais à ce qu'ils s'alignent les uns par rapport aux autres de fait à représenter cette forme géométrique. On va voir le détail du code juste ensuite. Et cette fois-ci, je vais aligner les différents rectangles avec le panel lui-même, avec le relatif panel. Donc quand je vais redimensionner, automatiquement. Mes contrôles vont rester, eux, le bleu se veut être aligné avec le panel en haut à gauche et le rouge en bas à droite. Et pour ce qui est du rectangle blanc, il reste toujours centré par rapport au panel. Donc voilà ce que ça me donne comme effet. Et ceci avec très peu de lignes de code. Alors si on regarde comment est composé le source, on retrouvera systématiquement la même construction. Un relatif panel ici. Il se trouve que je le positionne sur une grille, puisqu'il est noté dans une grille. Je n'aurais même pas besoin d'ailleurs, puisque finalement mon code a changé, la grille n'est plus le parent. Notez ici que j'ai toujours les trois rectangles, bleu, blanc, rouge. Je me demande bien pourquoi. Et que je leur donne tout le temps les mêmes dimensions et les mêmes couleurs, donc d'un exemple à l'autre. La seule chose qui va changer, c'est le positionnement que je vais choisir lié au relatif panel. Donc, dans le premier exemple, j'ai demandé à ce que le rectangle blanc soit parfaitement centré par rapport au relatif panel. Et ensuite, je demande à ce que le rectangle bleu soit à la gauche du rectangle blanc, bleu, blanc, rouge, et que il soit aligné à la verticale par rapport au panel. Et puis pour le rectangle rouge, je demande à ce qu'il soit toujours aligné verticalement par rapport au panel, mais cette fois-ci à la droite du rectangle bleu, du rectangle blanc, pardon, bleu, blanc, rouge. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour les lines, à ce moment-là, je vais aligner avec le top. Donc le rectangle bleu sera aligné avec le top du rectangle blanc. Et puis il sera aligné sur la droite du rectangle blanc. Et je continue comme ça. Le rectangle blanc est toujours centré. Et cette fois-ci, le rectangle rouge est aligné avec le bas du rectangle blanc. Et sa gauche est alignée avec le rectangle blanc lui aussi. Voilà, donc on peut jouer et combiner tout cela. Sur les align, ici, oui, dernier exemple, cette fois-ci, je me suis basé entièrement sur les alignements avec le panel. Donc j'ai un align top with panel. Donc j'aligne le top de mon rectangle bleu sur le panel lui-même. Et si j'aligne le top et le left, à ce moment-là, il va se retrouver en haut à gauche. Pour le rectangle rouge, je fais un alignement en bas et à droite. Et donc ce qui produit l'effet que je viens de vous montrer. Donc là, ces propriétés se changent vraiment très très simplement. Il me reste à vous montrer ici voyons maintenant la notion de Visual State. Alors, l'idée des Visual State est d'être capable de modifier le comportement des contrôles décrits dans l'XAML avec du code indiqué dans l'XAML, ceci afin de rendre les choses plus dynamiques. Donc, dans ces Visual State, nous avons la possibilité d'avoir des setters. Donc, c'est ce que nous voyons ici, c'est la possibilité d'affecter la valeur de propriété de nos contrôles. Exemple ici. Nous avons nommé un Visual State Landscape State. On peut imaginer que lorsque l'application passe en mode paysage, à ce moment-là, un certain nombre d'actions vont être exécutées. Exemple ici, donc les setters en l'occurrence vont demander à changer le type de relation que le rectangle rouge aura avec le rectangle bleu. Et c'est en changeant ici les propriétés relationnelles du relatif panel. Alors, il existe aujourd'hui une notion de trigger qui a été intégrée, qui nous permet de déclencher automatiquement l'application d'un Visual State en fonction de conditions. Donc, deux types de triggers ont été mis en place, un min window width et un min window height. Donc, vous imaginez que ces deux propriétés signifient que si la taille de la fenêtre est en dessous de telle valeur ou au-dessus de telle valeur, je pourrais réagir d'une façon ou d'une autre. Alors, voilà comment on peut la mettre en œuvre. quand on va combiner à la fois les setters et les triggers, ce qui veut dire que lorsque je vais définir mon visual state, ici un white state, je vais définir un setter, de dire quand la condition sera valable, voilà ce que je veux que tu fasses. Donc en l'occurrence, je vais changer l'orientation du panel, de dire bah, j'aimerais que ce panel, qui est vraisemblablement un stack panel, change d'orientation, passe à horizontal. Et puis je vais le faire sur un déclencheur, à savoir ici mon adaptive trigger min window width à 600. Donc lorsque je serai avec une taille supérieure à 600, à ce moment-là, je vais passer avec un affichage à l'horizontale qui sera vraisemblablement plus adapté aux grandes résolutions. Voyons ensemble à quoi ça ressemble dans le code. De retour dans Visual Studio 2015 avec le projet Windys Demo, que vous trouverez toujours sur GitHub, nous allons cette fois-ci ouvrir la page Adaptive Triggers. Donc voici la page en question. Regardons à quoi ressemble l'exécution de la démo. Donc je rentre dans le scénario de la partie Adaptive Trigger. J'ai ici un stack panel qui aligne mes trois rectangles, pardon. Lorsque je vais redimensionner ma page, arrivé à une certaine taille, j'ai décidé de changer non seulement la couleur de fond pour qu'on voit très très bien ce qui se passe, et puis aussi de changer l'orientation du stack panel. Donc là, j'ai absolument zéro ligne de code pour effectuer ce traitement-là, ce qui veut dire que quelqu'un qui design mon application est totalement autonome, sans toucher au code et uniquement au XAML, pour faire en sorte que mon application s'adapte exactement au comportement que je pourrais souhaiter. Donc voyons ensemble ce à quoi ressemble le code. Le code en question est extrêmement simple. Ici, j'ai défini un Visual State Manager, ici. J'ai défini un état que j'ai appelé wide en disant j'ai beaucoup de place, mon écran est plutôt large. En l'occurrence, il fait plus de 600 pixels. À partir de ce moment-là, s'il fait plus de 600 pixels, j'aurai un trigger qui va se déclencher et qui m'exécutera le setter du même visual state. Donc ici, dans le setter, j'ai demandé à ce que le background du pivot s'affiche en vert et que l'orientation de mon stack panel soit horizontal. Et puis, lorsque je vais passer dans un autre visual state qui sera le narrow state, donc plutôt écran étroit, à ce moment-là, j'ai un autre comportement en utilisant le même type de trigger, mais cette fois-ci avec un paramètre différent, une taille ici à 0, pour dire si jamais tu es au-dessus de 0, tu t'afficheras comme ça. Et cette fois-ci, avec comme setter, de dire bah, écoute, tu te mettras en orange pour le background du pivot, et puis je demanderai au stack panel de passer en orientation verticale. Voilà. Donc vraiment extrêmement simple, il n'y a pas de ligne de code C Sharp derrière cela. Rien de plus simple du coup pour changer l'ensemble de mes paramètres et d'affichage notamment. Donc ici par exemple, autre exemple, alors là j'en ai un autre avec un stack panel et là cette fois-ci avec un relatif panel. Imaginez la puissance si je peux combiner tout ça. Je pourrais changer complètement les relations que j'ai entre mes contrôles en fonction de la taille et de dire bah, finalement je vais préférer afficher tel contrôle en dessous de celui-ci ou à droite de celui-là si je n'ai pas cette place. Je peux même cacher un certain nombre de choses en réduisant pourquoi pas leur taille ou en changeant leur visibilité. Voilà donc, on voit très clairement que la combinaison en fait de tous les moyens que nous avons pour positionner les contrôles les uns par rapport aux autres, les grilles, les canvas, les stack panels et bien sûr le relatif panel, conjugué avec la partie trigger qui ont été rajoutées au Visual State, ça nous permet vraiment d'avoir des interfaces qui soient complètement adaptatives, qui s'adaptent à la façon de s'afficher, la façon optimale sur toutes les tailles d'écran. Ce qui me permet d'avoir un même source pour mes fichiers XAML et qui me permet du coup d'avoir une application qui s'exécute quel que soit l'appareil sur lequel l'utilisateur veut l'exécuter justement. Alors comme à chaque fois, les exemples que je vous ai montrés lors de cette vidéo sur les contrôles adaptatifs, Vous retrouverez l'ensemble des exemples de la Windows 10 SDK démo sur GitHub en libre téléchargement, toujours avec 100% du code source, et puis une licence Apache 2.0 qui vous permet une exploitation totalement libre du code. N'hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions. Si vous apercevez qu'il y a le moindre problème, n'hésitez pas aussi à l'indiquer. Nous corrigerons ce qui va bien. On a essayé vraiment de faire ça le plus simplement possible pour faire en sorte que vous puissiez mettre les mains dessus, tester rapidement les scénarios, les nouveautés de Windows 10 en avance de phase, puisqu'il s'agit toujours d'une preview. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et puis donc, à vos forks, amusez-vous avec ce projet. Voilà, donc ce quatrième module de la Microsoft Virtual Academy sur Windows 10 Quad 9 pour les développeurs s'achève. Nous allons pouvoir passer maintenant à un cinquième module qui sera non moins intéressant puisqu'il s'agira de la communication entre les applications. Vous verrez, il y a beaucoup de nouveautés sur ce sujet-là aussi. Voilà, je vous retrouve tout de suite.